sourire ou à affect. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
(18h30) en temps universel, le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Dividico avec vous, bonsoir. À la une de l'actualité, ce lundi 2 octobre, au Mali, un grand convoi de l'armée s'est mis en route en direction de Kidal, bastion de la rébellion Touareg. En RDC, le président Félix Tshisekedi a annoncé qu'il se porte candidat à la présidentielle du 20 décembre. À Madagascar, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène contre des candidats à la présidentielle, membres de l'opposition. Et à New York, le procès civil de Donald Trump et de deux de ses enfants s'ouvre aujourd'hui. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. L'armée malienne a entamé un redéploiement de ses troupes vers le bastion rebelle de Kidal, dans le nord du pays, sur fond de reprise des hostilités. Un convoi a quitté la ville de Gao, située à 300 km au sud-ouest de Kidal, tôt ce matin. Alexandrine Rolognon nous en dit plus.
Le convoi est composé de 119 véhicules et est actuellement arrêté sur la route au nord de Gao selon des sources sécuritaires. Un autre convoi est parti dès dimanche de Bourem, plus au nord, et se dirige dans un premier temps vers Anéfis, dans la région de Kidal. Aucun responsable malien n'a officiellement désigné la ville de Kidal comme l'objectif direct du déploiement. Mais le chef des services d'information de l'armée, le colonel Souleyman Dembélé, a déclaré qu'à terme, Kidal devait repasser sous le contrôle de l'État. La MINUSMA a commencé à rétrocéder ses camps aux autorités maliennes. Les rebelles estiment que les emprises onusiennes du Nord devraient revenir sous leur contrôle en vertu des accords passés. La mission de l'ONU doit encore libérer ses camps de Kidal, mais aussi à Gelhok et Tessalit, plus au Nord, d'ici au 31 décembre. Pour rappel, en 2014, les rebelles Touareg ont infligé une déroute à l'armée malienne quand elle avait tenté de reprendre cette ville.
Le Niger a accepté une proposition de médiation de l'Algérie en vue d'une solution politique à la crise après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le gouvernement algérien a reçu par le canal du ministère des Affaires étrangères nigérien une acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise du Niger, a indiqué le ministère algérien des Affaires étrangères. Reporters sans frontières a demandé lundi aux autorités du Niger la libération sans délai d'une blogueuse et journaliste nigérienne interpellée deux jours plus tôt pour des raisons inconnues. Samira Sabou a été interpellée le 30 septembre à son domicile. Jusqu'à là, sa famille est restée sans nouvelles. RSF demande aux autorités du Niger de révéler son lieu de détention et de permettre à son avocat de la voir. En République démocratique du Congo, la course à la présidence est lancée. Hier, la candidature du président sortant, Félix Tshisekedi, a été officiellement endossée par la plateforme des partis au pouvoir. Le prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, a annoncé aujourd'hui qu'il se présente et le candidat malheureux de la dernière présidentielle, Martin Fayulu, a lui aussi confirmé qu'il prend part à la compétition. Le point avec Eddy Issango.
Félix Tshisekedi, président sortant, a été officiellement porté hier par l'Union Sacrée, plateforme des partis qui sont au gouvernement. La cérémonie a été officiée par les premiers ministres Samalou Koundé, aux côtés de plusieurs personnalités et l'ensemble du gouvernement. Nous sommes du bon côté de l'histoire, a lancé Samalou Koundé. Aujourd'hui, le docteur Denis Mukwege a lui aussi annoncé à Kinshasa qu'il est candidat. Les moments propices, ma seule motivation est de sauver notre parti, a souligné le prix Nobel en réponse à ceux qui pensent que le système électoral est déjà vicié. Martin Fayulu a de son côté confirmé qu'il est dans la course, bien qu'il qu'il avait refusé auparavant que son parti dépose des candidatures pour les législatives pour exiger des réformes à la CENI. Les dépôts des candidatures s'est fait depuis plus d'une semaine et d'autres noms ont déjà été enregistrés.
À Madagascar, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène lundi contre des candidats de l'opposition à la présidentielle du 9 novembre. Ils convergeaient avec quelques centaines de partisans vers une place dans le centre de la capitale. Le point avec Rosine Munezero.
Les préparatifs en vue du scrutin sur la grande île de l'océan Indien se déroulent depuis plusieurs semaines dans un climat tendu. 11 candidats et opposants, dont l'ancien président Marc Ravalomanan, avaient appelé à se rassembler en début de matinée sur la place du 13 mai, théâtre de toutes les contestations politiques de Madagascar, pour faire entendre nos voix. Plusieurs de ces candidats étaient en tête de cortège lorsque les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser à environ 300 mètres de la place du 13 mai. Le rassemblement de l'opposition n'avait pas été autorisé par les autorités. Dimanche soir, le président sortant, André Rajoel, a dénoncé une crise politique créée de toutes pièces. 13 candidats sont en lice pour le prochain scrutin, dont le président sortant, 49 ans, qui a accédé au pouvoir en 2009 à la faveur d'une mutinerie qui a chassé Marc Ravalomanan du pouvoir.
Des milliers d'Égyptiens réclament ce lundi un troisième mandat pour Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir avant la présidentielle de décembre. Depuis le matin, des milliers de ses partisans convergent par bus vers des places du Caire et des affiches proclamant « Oui à la stabilité » s'étalaient sur les felouks du Nil. Officiellement, l'ancien chef de l'armée n'est pas encore candidat à sa succession. Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé dimanche le report à début novembre d'une conférence internationale pour la reconstruction de la ville de Derna, dévastée par les inondations meurtrières du 10 septembre. Les inondations provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna ont fait près de 3 900 morts, selon un dernier bilan du gouvernement de l'Est.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le procès civil de Donald Trump et de deux de ses enfants, accusés d'avoir gonflé pendant des années leurs actifs immobiliers, s'est ouvert ce lundi à New York. Les précisions de John Linden.
La procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, plaignant dans le procès civil pour fraude contre Donald Trump et deux de ses enfants, a promis lundi que la justice allait prévaloir dans cette affaire. Quel que soit votre pouvoir, quel que soit l'argent que vous pensez détenir, personne n'est au-dessus de la loi, a martelé la plus haute magistrate de l'État de New York devant un tribunal de la ville de New York où a commencé ce procès au civil pour fraude fiscale et comptable. Ce procès a pris un enjeu la semaine dernière lorsque le juge Arthur Engoron, qui le préside, a estimé que des fraudes répétées sont établies et que le parquet général de l'État de New York a d'ores et déjà démontré que Donald Trump et l'état-major de son groupe ont surévalué leurs actifs entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars de 2014 à 2021. Le procès étant civil, l'ancien président ne peut pas être condamné à la prison dans cette affaire.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce aujourd'hui sur la création d'une mission internationale de soutien à la police en Haïti, gangrénée par la violence des gangs. Depuis un an, le Premier ministre haïtien Ariel Henry et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclament l'envoi d'une force internationale pour aider la police dépassée par la violence qui ne cesse de s'aggraver. Fin juillet, le Kenya a finalement annoncé être prêt à mener cette mission et déployer 1 000 hommes dans ce pays de la Caraïbe.
La Russie consacre énormément de moyens à créer des divisions chez les alliés de Kiev. C'est ce qu'a estimé ce lundi le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, quelques heures après des commentaires du Kremlin sur la lassitude occidentale vis-à-vis du soutien à l'Ukraine. Le plus grand espoir de Vladimir Poutine est précisément que l'Occident et le monde se lassent de se ranger aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Nanif Talani.
La côte d'Ivoire a augmenté samedi à 1000 francs CFA par kilo, soit 11%, le prix fixe du cacao que les acheteurs doivent payer aux producteurs pour la principale récolte, contre 900 francs CFA par kilo la saison dernière, alors qu'il y a une hausse constante des prix du cacao sur le marché mondial. Les producteurs et exportateurs estiment que ce prix plus bas que prévu pourrait alimenter la contrebande vers les pays voisins comme le Ghana, qui a augmenté de plus de 63% le prix du cacao à la production pour 2023-2024. Pour terminer, le ministère sud-africain de l'Environnement a donné son feu vert à Total Energy pour forer en mer à la recherche de gaz et de pétrole après avoir rejeté l'appel de plus d'une douzaine de personnes et de groupes de pression qui entendaient contester la décision. Ceux-ci contestaient la décision pour plusieurs raisons, dont le bruit marin, les déversements de pétrole, le changement climatique ou l'insuffisance de la consultation publique.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
Yacouba, on connaît 15 clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des Champions CAF.
Oui, l'ASEC Mimosa y sera 4 ans après. Le club ivoirien retrouve la phase de poule après 2019 suite à sa victoire 2 buts à 1 face au Libyen de Benghazi. Par contre, fin de parcours pour le Oroya de Conakry. Pour la première fois depuis 2017, le club guinéen ne verra pas la phase de poule puisqu'éliminé par les Ghanéens de Madiama, qui permet au Ghana de retrouver le top 16 continental après 15 ans d'absence. Le tout-puissant Mazembe y sera aussi après avoir écarté Big Ballot de Malawi. Les Corbeaux de Lubumbashi avaient raté la phase de groupe les 3 dernières années. Pour le reste, les cadors sont là. C'est le cas du tenant du titre Al Ahly qui a surclassé les Éthiopiens de Saint-Georges 7-0 sur l'ensemble des deux matchs. Mission accomplie aussi pour les deux clubs tunisiens. L'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel, ça passe pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, les Angolais du Petro Atlético et les Égyptiens de Pyramide. Qualification aussi de Simba après son nul face aux Zambiens de Dynamo Power, le FC Noir Dibou pour sa première après avoir dominé l'AS Real de Bamako et Al Hilal du Soudan a éliminé les Angolais des Primeurs de Agosto avec un succès 2-0 au match retour.
En Coupe de la Confédération, le tenant du titre a assuré sa place parmi les 16 qualifiés.
L'USM Alger s'est qualifié suite à son nul 0-0 contre le Fus de Rabat, un but partout à l'aller. Autre qualifié, les Diables Noirs du Congo après leur succès 2-0 sur les Zambiens de Moussa, les Tunisiens du club africain aux dépens des Éthiopiens de Bahardar et des Égyptiens du futur FC, tombeurs des Tanzaniens de Sigida. Le stade malien valide son ticket après avoir éliminé au tir au but les Ailes Noires du Burundi, tout comme Renaissance de Berkane, qui a sorti les Nigériens de Bendel Insurance. L'autre club nigérien, Rivers United, y sera aussi après avoir écarté les Burkinabés de l'Étoile filante de Ouagadougou. En revanche, l'aventure s'arrête là pour les Congolais de Lupopo, sortis par les Sud-Africains de Sekou Koumé. Qualification aussi des Angolais de Sagrada Esperanza, d'Al Hilal Benghazi, des Ghanéens de Dream FC, des Zougandais de Kampala City et des Guinéens de Koya. Le Zamalek passe in extremis devant les Djiboutiens d'Arta Sola, 4-3 sur l'ensemble des deux matchs.
Et après la polémique TikTok, Victor Osimhen clame son amour pour Naples.
L'attaquant nigérien défend son club et les Napolitains accusés de racisme, surtout au Nigeria, après la publication d'une vidéo se moquant de lui sur le compte TikTok du Napoli. Rejoindre Naples en 2020 a été une merveilleuse décision. Le peuple napolitain m'a témoigné tant d'amour et de gentillesse. Je ne permettrai pas que quelqu'un s'immixe entre eux et moi, a écrit Victor Osimhen dans un communiqué. Il dit remercier les Nigériens et tous ceux qui lui ont apporté leur soutien. Victor Osimhen s'est retrouvé en début de semaine dernière au cœur d'une polémique lorsque son club a publié une vidéo sur son compte TikTok. Se moquant de lui, la publication du Napoli, depuis effacée, montrait la tentative de pénalty ratée par le Nigérian contre Bologne.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Dili Diko, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Reporters sans frontières demandent aux autorités du Niger la libération sans délai de la journaliste Samira Sabou, interpellée à Niamey le 30 septembre à son domicile. Le motif de son interpellation est encore inconnu, mais en 2020, Samira Sabou a été écrouée et jugée pour diffamation suite à des publications sur une affaire de surfacturation d'achat d'équipements militaires avant d'être relaxée. Yakuba Ouedraogo a joint à Niamey Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative et Espace Citoyen.
On ne sait pas vraiment pourquoi elle a été interpellée et détenue dans un lieu qu'on ne connaît pas. Parce que bon, il aurait fallu avoir accès à elle, soit directement les membres des organisations ou par le biais de son avocat, pour savoir même en fait pourquoi elle a été interpellée. Bon, on pense simplement que ça ne peut être lié qu'à son travail de journaliste et de blogueuse. C'est probablement ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a bien pu dire, écrire, faire pour mériter d'être interpellée et détenue pratiquement au secret, sans possibilité d'accès à un avocat ou même sans inviter membre de sa famille. On voit ce qu'elle publie et même en revisitant, on ne trouve pas vraiment matière à ce qu'une personne soit interpellée et gardée dans ces conditions-là.
Est-ce qu'on sait qui l'a interpellé?
Selon en tout cas les témoignages, ce sont des personnes en civil, probablement donc des éléments d'un quelconque service. J'espère bien que ce n'est pas des kidams du quartier, quoi.
Samira Sabou avait été écrouée en juin 2020, jugée pour diffamation suite à des publications concernant une affaire de surfacturation d'achat d'équipements militaires avant d'être relaxée. Est-ce qu'il faut faire un lien?
Je ne sais pas s'il faut faire un lien. Bon, à l'époque, elle a été interpellée. On sait qu'il a interpellé. C'est vraiment, elle était à la PJ. Bon, là, maintenant, on ne sait pas exactement de quel service. Si c'est un service. Je pense que l'autre histoire, c'est une histoire passée. Je ne pense pas que pour la même histoire qu'on puisse l'interpeller aujourd'hui. Même si c'est le cas, elle devrait être dans un endroit où elle peut avoir de la visite, elle peut avoir son avocat.
Est-ce que la liberté d'expression est menacée au Niger depuis la prise de pouvoir par les militaires le 26 juillet dernier?
Franchement, on peut dire que oui, parce que quand même, il y a d'autres personnes qui ont été interpellées pour des opinions. On sait également qu'elle-même, elle a été vraiment victime de lynchage sur les réseaux sociaux. Elle a été attaquée, vilipendée, accusée de toutes sortes de choses. C'est pas l'État en tant que tel, mais même en fait des personnes menacent au moins la liberté d'expression d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a une telle intolérance, il y a parfois des cabales qui se mettent en place contre des personnes. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de nouveau.
Elle a été prise à partie par qui et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a publié sur les réseaux sociaux?
Non, pas des internautes qui l'attaquent, qui la traitent de tous les noms d'oiseaux à cause de ses publications. Surtout aussi parce qu'elle essaye d'avoir un certain équilibre. Elle publie des informations de sources diverses. Elle ne publie pas que des informations que les gens veulent voir. Elle peut publier aussi des informations venant d'autres sources. Je pense que même ça, c'était pas tellement accepté. Des gens qui disent oui, elle n'est pas patriote, elle travaille pour des forces ennemies.
Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative et Espace Citoyen. Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24. Au Togo, un programme de volontariat national permet à de jeunes hommes et femmes déscolarisés ou sous-scolarisés de se former pour leur insertion professionnelle. âgé de 18 à 35 ans, il s'engage auprès des collectivités locales pendant 6 mois pour exécuter des travaux d'intérêt public dans les communes du pays. De Lomé, notre correspondant Kossi Woussou.
Reconnaissables par leur gilet jaune, une vingtaine de jeunes hommes et femmes viennent de mettre au propre une partie du trottoir de la route internationale Lomé frontière du Bénin dans la commune Lac 3. Ce sont les volontaires d'engagement citoyen mis à disposition par l'Agence nationale de volontariat du Togo pour des travaux communautaires. Richard Kofitona, le secrétaire général de la mairie, apprécie le travail de ces volontaires.
Ces volontaires-là sont d'une aide inestimable pour la commune parce qu'ils contribuent à rendre l'environnement propre. D'abord au niveau de la mairie ici, au niveau de la ville, à dégager les ordures, à créer des espaces verts, à aider même au reboisement. Leur apport aide beaucoup à régler les problèmes de salubrité dans la ville.
Pendant la durée de leur engagement citoyen, ces volontaires reçoivent des formations en tout genre pour leur insertion professionnelle. Miwanuku Ami témoigne.
On
a été formé à la fabrication de savon liquide, la confection des sacs à base de raffia, l'élevage de poulets et des chèvres, le maraîchage aussi. Cela va nous aider à nous prendre en charge afin d'aider nos familles après les 6 mois de service de volontariat.
Pendant les 6 mois d'engagement citoyen, ces volontaires perçoivent une allocation de 30 000 francs CFA. Damadjo Douamekpo souhaiterait que le montant soit révisé à la hausse.
C'est vrai que c'est nous-mêmes qui avions choisi de nous engager comme volontaires. L'État nous donne l'allocation mensuelle qu'elle a prévue, mais c'est insuffisant. Le déplacement pour nous rendre à la mairie nous coûte un peu cher. À la fin du mois, il ne nous reste pas grand-chose. Il faut qu'on augmente un peu l'allocation.
En plus de ces volontaires, l'Agence nationale de volontariat met en place des programmes pour les volontaires internationaux, les volontaires seniors et les volontaires nationaux de compétences. Ces derniers participent à l'atteinte des objectifs nationaux au niveau sectoriel, comme la santé et l'éducation. Ganiou Agouda, responsable planification, suivi et évaluation à l'ANVT.
Au niveau de la santé, les volontaires ont contribué à la réalisation des indicateurs inscrits dans les stratégies de promotion de la santé au Togo. Et au niveau de l'éducation, l'intervention des volontaires a permis de diminuer le ratio nombre d'élèves par enseignant et également d'améliorer les résultats des élèves au secondaire 1 et au secondaire 2.
Les deux secteurs seront de nouveau renforcés par 650 diplômés sans emploi qui viennent de s'engager récemment. Selon l'Agence nationale de volontariat du Togo, ce sont plus de 65 000 jeunes Togolais qui ont participé au programme depuis son lancement officiel en 2011. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Washington DC, la capitale des États-Unis, a accueilli le week-end dernier le Festival mondial des cultures. Pendant 2 jours, la ville s'est transformée en un véritable melting pot où des personnes de tout âge et de toute origine se sont rassemblées pour célébrer la diversité culturelle et la paix. Des spectacles de danse et de musique, des expositions, des stands de livres, de gastronomie et des ateliers de découverte ont permis aux visiteurs de découvrir différentes cultures. Suivons ce reportage de Nanit Talani.
L'atmosphère au Festival mondial des cultures était une véritable célébration de la diversité culturelle et de la paix sur le National Mall. L'un des moments les plus marquants a été le chant « We are one ». Nous sommes un, que les spectateurs ont chanté en harmonie avec des bougies allumées pour symboliser la paix et l'unité dans un monde de plus en plus divisé. Sandrine Irankunda, d'origine rwandaise et doctorante en études africaines à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, estime que la compréhension culturelle est essentielle
pour la paix dans le monde.
Maintenant, nous vivons dans un monde qui est très divisé et ça cause beaucoup de conflits et de guerres et de sufferings. Mais donc, je pense que c'est très important qu'on vienne ensemble, qu'on voit qu'on est tous humains et on peut construire un monde d'unité et de paix.
Ce festival vise la promotion de la paix et la compréhension entre les différentes cultures. Il rappelle que les humains ont plus de choses en commun que de différences. C'est une puissante exhortation à l'importance de la compréhension entre les peuples. Pour le prince Yemi Oye, de l'état d'Oyo au Nigeria, de tels événements peuvent aider à briser les barrières.
Rassembler les cultures contribue à promouvoir l'unité entre les peuples du monde et exposer la beauté de chaque pays. Cela favorise l'amitié.
Yemi Oye souligne également les avantages économiques qui peuvent découler du brassage des cultures.
Quelqu'un m'a dit qu'il voulait acheter ses perles, donc le festival offre un avantage économique. Les gens s'intéressent à votre culture comme ma tenue vestimentaire. J'ai rencontré des gens qui aiment ma façon de m'habiller. Ils veulent s'habiller comme moi. Maintenant, ils vont commander ces habits dans mon pays. Cela rapportera donc de l'argent à mon pays.
Des ateliers, des expositions et d'autres activités éducatives, tant pour les enfants que les adultes, ont fait découvrir différentes cultures du monde. Le Festival mondial de la culture est une initiative de la Fondation Art de Vivre, une organisation à but non lucratif fondée par l'Indien Gurudev Srisri Ravi Shankar. La fondation est active dans une centaine de pays et compte plus de 10 millions de bénévoles.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, bien que la paralysie de l'administration américaine ait été évitée de justesse, une nouvelle semaine agitée s'annonce au Congrès. Un législateur conservateur a promis d'être implacable dans ses efforts pour évincer Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants. Le point avec Véronica Balderas Iglesias de la VOA, le récit est de Jacques Aristide.
The bill is passed. Le projet de loi de financement à court terme que le Congrès des États-Unis a adopté samedi et qui a été signé par le président Joe Biden permettra au gouvernement américain de continuer à opérer au moins jusqu'à la mi-novembre. Mais le locataire de la Maison Blanche a mis en garde dimanche contre une répétition du processus chaotique qui a précédé l'adoption à la dernière minute du texte provisoire.
La politique de l'accord de retrait doit cesser et il ne devrait pas y avoir de nouvelle crise. Il n'y a aucune excuse pour une nouvelle crise. Par conséquent, je demande instamment à mes amis républicains du Congrès de ne pas attendre. Ne perdez pas le temps comme vous l'avez fait tout l'été. Adoptez l'accord budgétaire annuel. Honorez l'accord que nous avons conclu il y a quelques mois.
Mais une nouvelle confrontation pourrait se profiler à l'horizon au Capitole. Les conservateurs d'extrême droite ne sont pas contents que Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, ait tendu la main aux démocrates pour qu'ils adoptent le projet de loi de financement temporaire. Le destituer est désormais la priorité absolue pour l'élu républicain.
En janvier, pour obtenir le poste de président de la Chambre, Kevin a dû accepter certains garde-fous en matière de dépenses. Les législateurs américains votent pour ou contre le financement de l'ensemble du gouvernement. C'est fou. C'est la raison pour laquelle nous avons une dette de 33 000 milliards de dollars. Nous souhaitons passer à des projets de loi de dépenses uniques. Il a pris cet engagement, il l'a rompu.
La réplique de Kevin McCarthy a été tout aussi vigoureuse lors de l'émission Face the Nation de CBS.
So be it, bring it on, let's get over with it.
Et qu'il en soit ainsi, allez-y, finissons-en et commençons à gouverner. S'il est contrarié parce qu'il a essayé de nous pousser à la paralysie et que je me suis assuré que le gouvernement continue de fonctionner, alors menons ce combat.
En attendant le dénouement de cette confrontation, les compromis entre républicains et démocrates vont se poursuivre, d'après Rachel Snyderman du Bipartisan Policy Center.
Il existe un compromis bipartisan en faveur d'un financement supplémentaire pour l'Ukraine, aussi pour soutenir nos troupes et garantir la sécurité de nos frontières. Et donc je pense que nous allons voir des actions par rapport à ces priorités particulières dans les semaines à venir.
L'Ukraine et le reste de la planète vont suivre la situation de près, selon le politologue Oscar Pocasangre.
Je pense qu'à plus long terme, nous devons nous concentrer davantage sur une réforme structurelle des institutions et trouver des moyens d'avoir plus des partis politiques au Congrès, ce qui nous aidera à parvenir à davantage de consensus au sein de corps législatifs, au lieu de simplement avoir des allers-retours entre ces deux partis très divisés.
Oscar Pocasangre est également d'avis que davantage d'instabilité politique pourrait nuire à la crédibilité des États-Unis ainsi qu'à leur situation économique.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Dilidico à la présentation. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.